Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier.
Pour clôturer notre thématique l'an 08, nous vous proposons de jeter un pavé dans la mare du Tintamarre commémoratif de mai 68. Il s'agit de déshabiller cette génération passée du gauchisme à la restauration. Tout m'a profité. C'est comme ça que Serge Julie, ex-Mao, cofondateur du journal Libération et qui en est devenu jusque récemment le directeur, résuma un jour ce reniement dans la continuité que dénonce Guy Hockenheim dans son livre « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary ». Professeur de philosophie et militant homosexuel décédé en 1988, Guy Hockenheim appartenait à cette très encombrante génération, celle des André Glucksmann, Romain Goupil, Edwy Plenel, Alain Finkielkraut et Bernard Kouchner. Il observe ce retournement de veste des ex-68ards et le dissèque de façon mordante. Son pamphlet, publié en 1986 par Albin Michel, réédité en 2003 par Agone, n'a pas pris une ride. Mais bizarrement, il n'a trouvé aucun écho médiatique 40 ans après mai 68. Et mieux encore, on a préféré donner de la voix à ceux qui en sont les cibles. Comme vous pourrez l'entendre à la fin de cette émission, avec Alain Finkielkraut qui se renie une énième fois, violemment et sans complexe, lors d'une journée spéciale mai 68, intitulée « France Culture occupe le théâtre de l'Odéon ». Mais il faut patienter un petit peu avant d'en arriver là. Dans cette émission autour du livre « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary », vous allez pouvoir entendre Thierry Dissépolo et Benoît Eugène, des éditions Agone, ainsi que des extraits de l'ouvrage lu par Benoît Eugène. Et on commence par écouter le début de l'émission Apostrophe, présentée par Bernard Pivot, où était invité Guy Hockenheim à l'occasion de la sortie du livre en 86. Intitulé « Ils avaient 20 ans en mai 68 », ce plateau télé était composé de Bernard Tapie, Laurent Dispo, Pascal Bruckner et Guy Hockenheim.
En mai 68, ils avaient 20 ans. En mai 86, ce sont des quadragénaires où on passe de lettres. Où en sont-ils? Que disent-ils? Qu'écrivent-ils? Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. Cette publicité dit ceci. En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine. Guy Hockenheim, vous enseignez la philosophie à Paris-Vincennes, vous êtes romancier. La colère de l'agneau qui est paru l'année dernière a été un grand succès. Vous avez même obtenu le prix Méditerranée pour ce roman. Vous êtes essayiste, journaliste, pamphlétaire. Alors pamphlétaire, on le verra, avec Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Et puis avec René Scherrer, vous avez écrit un autre livre, L'âme atomique. Et ces deux ouvrages sont parus aux éditions Albin Michel. Alors vous aviez 22 ans en mai 68 et vous étiez, je crois, sur les barricades.
Oui, j'étais exactement sur celle qui était au coin de la rue Gay-Lussac et de boulevard Saint-Michel, le placé de Mont-Rostand, si vous voyez. Oui. Oui, j'avais un joli petit casque, j'avais un porte-voix et je criais différentes choses du genre CRSSS et des choses de genre.
Et vous apparteniez à un groupe
Oui, j'étais, à l'époque, j'étais trotskiste. Voilà.
Trotskiste. Ouais.
Aujourd'hui, ça paraît très loin, toutes ces étiquettes. Et enfin, la marque qui fait la publicité pour mai 68, là, ne s'intéresse plus du tout à savoir qui a réellement fait mai 68, mais... Mais à l'époque, les groupuscules, c'était une chose très importante. Ouais.
Guy Hockenheim. Alors, le ton du livre, c'est très simple. D'abord, le titre. Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, c'est déjà méchant. Dans les textes cités en épigraphe, il y a cette phrase célèbre de Marcel Jouhandeau, disant aux manifestants de mai 68, « Rentrez chez vous, dans 10 ans, vous serez tous des notaires ». Et puis, il y a cette... Alors, là, j'ai le choix.
C'est un peu trompé, ils ne sont pas tous devenus notaires.
Ils ne sont pas tous devenus notaires. Et alors, là, j'ai le choix, là, dans vos... pour donner votre ton, votre colère. Ex-gaucho, ex-contestataire, ex-révolté, ex-mari, toujours en divorce de mai 68, aujourd'hui membre à vie du club ouaté des renégats. Qui sont ces renégats ?
Les renégats sont tous ceux qui, tout simplement, ont écrit des livres ou ont participé médiatiquement dans des journaux ou à la télévision à cette forme de restauration des idées que nous avons vues depuis une dizaine d'années. Je parle de restauration, je sais que c'est un mot que les gens emploient plutôt politiquement. Par exemple, on dira Chirac, c'est la restauration. En fait, je ne crois pas. Moi, je crois que la restauration réelle des idées dans ce pays, elle a commencé à la fin de Giscard et elle s'est faite de façon massive, à mon avis, sous Mitterrand et sous la gauche. Et ce que j'appelle la restauration, c'est le fait que tout ce qui avait été contesté, tout ce qui avait été nié, tout ce qui avait été provoqué d'une certaine manière par mai 68 et la suite, est redevenu au contraire un sujet de respect, de conformisme, d'agenouillement, à savoir le pouvoir d'État, le fric, l'armée, la bombe, l'économie en tant que sujet abstrait, comme ça, devant lequel on s'incline. Tout ce qui, d'une certaine manière, avait été rejeté par une adolescence utopique ou généreuse.
Et ce sont ces mêmes jeunes gens.
Ce sont les mêmes qui ont fait les deux opérations. C'est-à-dire, ce sont les mêmes qui ont fait mai 68 et les mêmes qui ont fait cette restauration idéologique. C'est ça qui m'a provoqué à écrire ce livre. Je veux dire, c'est une génération dont je crois réellement que le rôle historique est aujourd'hui néfaste, qu'elle occupe beaucoup de postes de responsabilité, qu'elle est puissante, qu'elle est comme une camarilla ou une mafia, les ex-gauchistes, comme on dit, mais que son axe, sa volonté de puissance, c'est de renier ses anciennes utopies. Et par conséquent, qu'elle forme une sorte d'adversaire.
Alors, vous donnez un portrait robot. Alors, ce renégat, il a le nez de Glucksmann, le cigare de Julie, les lunettes rondes de Coluche, le bronzage de Lang, les cheveux longs de Bizot, la moustache de Debray, la chemise ouverte de BHL et la voix de Kouchner.
Il y a comme ça pour y arriver.
Texte écrit par Guy Hockenheim.
Adresse à une génération repentie. Cher ex-contestataire, le retour de la droite ne vous rendra pas votre jeunesse. Mais c'est bien la gauche au pouvoir qui vous l'a fait perdre, définitivement. Pour devenir les néo-bourgeois des années 1980, les mao-gaucho-contestaux, crachant sur leur passé, ont profité de l'hypocrisie nationale que fut le pouvoir socialiste. Deux reniements ainsi se sont alliés. Celui des ex de mai 68, devenu conseiller ministériel, patron de choc ou nouveau guerrier en chambre, et celui du socialisme, passé plus à droite que la droite. Mai 68, mai 86. Vos carrières ont atteint leur majorité. Le moment est venu d'en faire le bilan. Vous aimeriez bien y échapper. Tout s'est passé et passe si vite. Mais j'y tiens, à ce double bilan. Celui de 18 ans d'ex-gauchisme et celui de 5 ans de gauche. Passé déjà démodé, vous le condamneriez volontiers à l'oubli. Mais pour éviter que vous vous refassiez, sous la droite ou la cohabitation, une virginité, ce livre vous mettra le nez dans votre merde, vous renverra à la face vos ignominies récentes. Dans le socialisme au pouvoir, c'était le pouvoir qui vous attirait. Et puisque la cour était de gauche, vous jouiez aussi sur un semblant de continuité. Fidélité apparente, reniement et beurre étaient du même côté de la tartine. Quelle chance! On ne tire pas sur une ambulance, mais on autopsie un cadavre. Pour disséquer la dictature défunte des opportunismes conjugués entre Fabius et ex-Mao, qui nous a gouvernés depuis 5 ans, j'ai patienté jusqu'à la fin de la comédie.
Ce livre, donc, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, de Guy Hockenheim, a été publié pour la première fois en 1986. Pourquoi Agone a tenu à le rééditer en 2003 ?
C'est parce qu'il n'était pas disponible et qu'il nous semble qu'il fallait continuer à le donner à lire.
Thierry Dissépolo.
C'est une sorte de jeu de massacre et l'ensemble des figurines sur lesquelles l'auteur tire sont à peu près tous les plus visibles, les plus nuisibles des intellectuels médiatiques qui déjà en 86 lui servent de fil rouge pour écrire son ouvrage. Voilà.
Benoît Eugène.
Moi j'ai connu la période de 86, le livre date de 86, donc le retour de la droite au pouvoir et finalement la conclusion de l'échec de la gauche, c'était très perturbant parce que c'est exactement le moment où les valeurs basculent, quoi. Ce qui était gauche devient compatible avec ce qui était de droite. C'est pas seulement une cohabitation, c'est aussi un nouvel univers symbolique qui se met en place où tout est cul par-dessus tête. Parce que la gauche a fait la politique néolibérale, déjà. C'est comme si, quasiment du jour au lendemain, ce qui était le haut était devenu le bas. C'est extrêmement perturbant. Et peut-être que les premières explications que j'ai eues de ce qui est arrivé à ce moment-là et qui m'avait beaucoup perturbé, c'est en lisant ce livre-là, qui raconte ça, qui raconte ceux qui sont les acteurs de la construction d'une nouvelle idéologie, qui opère ce retournement des valeurs et ce retournement du monde, quoi. Et ce qui est important, c'est que le livre, pour ceux qui sont encore plus jeunes que nous, puisque ces gens sont encore là, il y a leur généalogie, quoi. Donc c'est aussi des instruments pour aider à se libérer de cette emprise.
Texte écrit par Guy Hockenheim.
Incidente. Tirade à un jeune homme naïf ou ni droite ni gauche. C'est à toi, jeune homme, que ce discours s'adresse. Toi qui m'as dit un jour, lors d'une promenade, comme je tentais de te résumer le projet de ce livre, « Moi, Mao, mes 68, connais pas. J'étais à peine né. Pourquoi y attaches-tu tant d'importance ? Oublie-les. En remâchant ces rancœurs, tu en fais partie de cette génération grise. Et au nom de quels principes, de quelles idées, toi, qui critique les autres, nous parles-tu ? Retour à la révolution, voilà ton rétro à toi. À toi donc, ô jeune homme naïf tombé en cette querelle d'anciens comme un chien dans un jeu de quilles, cette tirade. Écoute et assieds-toi, cette incise est pour toi et pour tous tes semblables. Cette génération de demi-vieux, je n'en fais partie, comprends-tu, que pour m'en dissocier, m'en séparer, m'en divorcer. Ce livre est de salubrité publique, et outre qu'il me nettoie, il peut bien t'être utile. Tu l'as remarqué, et cela t'a coupé les ailes contestataires. Tout le monde se bat au nom des mêmes valeurs, liberté, vérité, responsabilité. Ni gauche ni droite, proclament aujourd'hui tous les discours. Mais, à l'abri de cette proclamation, l'armée des ex-gauchistes occupe les prébendes, alternant le bouche-à-bouche sordide avec l'appareil socialiste exsangue, et l'embrassade avec les droites financières. Je sais, tu n'as rien connu du mouvement de mai, que son rictus de cadavre. Mais faudrait-il en avoir honte, en effacer la trace ? Il n'était, en effet, ni droite, ni gauche. Il ne s'agissait nullement de politique, ni d'art au sens étroit, ni même de droits de l'homme. Un individualisme, mais qui ne tomberait jamais dans l'individu, férocement attaché à soi. Un mépris en bloc de la classe politique et de la cour des artistes officiels. Donc, tout l'inverse de ce que tu vois aujourd'hui. Non, je ne prône pas la gauche révolutionnaire contre la trahison. Je n'ai jamais siégé au tribunal du peuple. Si je ne fais pas de procès politique, c'est parce que j'ai trop bien connu, à mes dépens, les procès politiques menés au nom du prolétariat et de la cause du peuple. Je n'ai jamais cru à la ligne juste, toujours trop à gauche ou trop à droite, toujours suspect d'esthétisme fascisant. J'étais, cher enfant, trotsko-surréaliste quand eux étaient stalino-althusserien, anarchiste spontanéiste quand ils étaient maoïstes d'acier. Je sais, c'est du passé. Et peu importe ces vieilles étiquettes. Elles veulent tout de même dire ceci. Mon arme, c'est le style libertaire dans l'action et la réflexion qui s'éloigne nécessairement, pour moi, de la politicaille renégate comme de l'esthétisme rétro.
Donc il a été écrit 18 ans après mai 68, ce livre, donc Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. En quoi il est encore d'actualité aujourd'hui, 40 ans après mai 68 ?
Le fait est que la plus grande partie des personnes qui sont la cible de Guy Hockenheim sont toujours en place. Très peu de morts d'ailleurs dans la série. C'est presque l'un des principaux regrets, on va dire, c'est que malheureusement ce livre est encore terriblement d'actualité. Ils sont presque tous vivants, quoi. Ils étaient ces commandants de lutte en 68, ils étaient ces cibles de l'attaque pour reniement dans les années 80. Et aujourd'hui, ils l'ont survécu, parce que lui, il est mort en 88. Et ils sont toujours en place. C'est toujours eux qui font la presse, c'est toujours eux qui font une partie de l'édition, c'est toujours eux qui font une partie du spectacle. C'est toujours eux qui accompagnent, quel qu'il soit, le personnel au pouvoir. Et même, on peut presque dire que la partie prophétique de l'ouvrage, elle est plus que corroborée, elle est presque renforcée. C'est-à-dire qu'au moment où Woken Game accuse ses anciens compagnons d'avoir trahi leurs idéaux, il les accuse de les avoir trahis au service de Mitterrand. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que depuis un an, c'est pas Mitterrand qui a permis le dernier reniement, c'est Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y a un pas de plus qui a été accompli dans le reniement. Il y avait déjà une conversion à l'idéologie libérale, mais là, on est passé encore au-delà. C'est-à-dire que l'actualité, elle est que plus le gouvernement passe à droite, plus ils accompagnent et plus ils leur permettent de passer plus efficacement à droite.
Alors qui, par exemple ?
Qui ? Oh, bah, le champion de toute catégorie, là, c'est Kouchner. Il est magnifique. Il est magnifique. Et il intervient dans ce livre, d'ailleurs... au moment de l'expédition française au Tchad en 1983, ce qui est la conversion d'un ancien président fondateur de l'organisation humanitaire à la guerre et à la guerre humanitaire. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce nouveau univers symbolique qui apparaît, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des oxymores en permanence. Quoi. Alors, guerre humanitaire. Mais ces choses-là, qui paraissaient aberrantes, aussi aberrantes, que ce qu'on lit dans la liste au pays des merveilles, quoi, chez le Chapelier fou, et bien c'est devenu malheureusement la réalité. Et cette réalité est tellement vraie que d'année en année, on se disait, mais enfin, ça ne peut pas aller aussi loin, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai, jusqu'à ce que Kouchner, voilà, il soit ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, et un petit peu plus que ça, quoi. Parce que son grand cheval de bataille dans ce gouvernement-là, c'est que l'Europe doit se doter d'une armée pour mener des guerres humanitaires, c'est-à-dire pour parachever l'engagement du docteur Kouchner auprès des populations souffrantes, quoi. On en est là.
Texte écrit par Jochen Gem.
Lettres à ceux qui pratiquent la continuité dans le reniement. Au petit blanc tiers-mondiste retourné. Cher repenti. Jacques Amalric écrivait à propos de l'émission La guerre en face. Séquence contestable. Ces boat people fuyant quelques Roumanie anonymes, venus d'on ne sait quel pays d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient, et qui menacent, à force de s'échouer sur les plages du midi de la France, d'envahir et de déstabiliser le pays. Le bouchon est poussé là un peu loin. Poussé jusqu'à s'échouer sur les côtes du racisme, de la xénophobie, de l'appel à la panique anti-tiers-monde, entre une séquence à la gloire du métier militaire et un appel à la défense de l'Occident. Qui était l'interprète et auteur de ce scénario catastrophe ? Propagande ouverte pour le rejet à la mer, en tirant s'il le faut des basanés et des jaunes ? Le Kirk Douglas à Fawcett de l'aide au tiers-monde ? Le grand embrasseur devant caméra d'enfants martyrs subtilisés au tiers-monde ? Le camarade Kouchner, lui-même, où est-il passé ? Où est-il passé ? Valeureux médecin sans frontières et de nuit ton absolu d'autrefois. La spécialité tiers-monde, humanisme, sert précisément à légitimer le racisme et le sécuritarisme. Double jeu. Et le spécialiste du tiers-monde s'est mué en son pire adversaire. Le fantasme d'invasion du Nord par le Sud, inventé par Jean-Claude Guibaud pour l'émission La guerre en face, il fallait que ce soit toi. Précisément, qu'il l'accomplisse et le joue, parce que ta qualité de bon docteur pour jaune faisait passer la pilule.
Pour répondre avec le texte même, avec le livre même, à la question de son actualité, bon, Alors, il y a quelques morts, en effet. Bon, Yves Montand est mort, Coluche est mort, qui font partie de quelques-unes des cibles premières, mais les pires sont encore vivants. Alors, parmi les premières cibles, il y a Serge Ulli, qui a un statut particulier. Serge Ulli est un ancien collègue d'Hockenheim, puisqu'ils ont participé à la Fondation de Libération tous les deux, pour créer un journal au nom de la cause du peuple. C'est comme ça que ça s'appelait, quoi.
Alors, Serge Ulli, qui a été votre patron à Libération, alors voilà, vous lui taillez un sacré costume, hein, ça... Oh là 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 là! Oh, il y a 10 pages! Qu'est-ce que vous lui mettez? C'est terrible, et... Hein,
oui. Mais... Bah, est-ce que c'est mérité ou non? Voilà,
vous devez être brouillé avec lui.
J'en ai aucune idée, j'ai pas revu Serge Ulli depuis assez longtemps, mais de fait...
Mais qu'est-ce que vous lui reprochez?
C'est très
simple. En quoi est-il renégat, lui?
Alors, voilà, en quoi Libération est-il renégat depuis la période de 73 à maintenant? Si vous lisez un quotidien comme Libération, vous constatez que tout ce qui a été, on peut dire, l'axe de la politique de Libération, ce qui a fait sa célébrité d'ailleurs, c'est-à-dire la contestation de toutes les valeurs, c'est-à-dire la lutte aux côtés des mouvements minoritaires, qu'ils soient d'ailleurs du féminisme, du mouvement homosexuel, des mouvements du tiers-monde, de tous les mouvements qui à l'époque représentaient la contestation.
Guy Hockenheim.
Cette position-là est définitivement abandonnée. Lisez Libération aujourd'hui. Libération aujourd'hui est un journal extrêmement bien fait, si l'on veut, mais dont l'axe est la défense de la hiérarchie du pouvoir, la défense dans le domaine économique des formes, disons, d'entreprise très proches de ce que Bernard Tapie défend également. D'ailleurs, je crois que Bernard Tapie et Libération ne sont pas très loin aujourd'hui. Dans le domaine militaire, c'est la défense de l'intervention au Tchad, par exemple.
C'est incroyable. Et ce n'est pas seulement le reniement d'une personne, quoi. C'est vraiment un univers cohérent dans lequel il y a plein de gens qui sont dans ce système. Donc la guerre, c'est la paix, quoi. C'est orwellien. L'écologie, c'est l'industrie. Ça, c'est le développement durable. Il faut marier l'industrie avec l'écologie, quoi. Parce qu'ils vont faire des chouettes petits-enfants qui seront verts, quoi. C'est peut-être aussi Cohn-Bendit qui veut marier Beauvais et Nicolas Hulot, pour faire une liste aux européennes. Beauvais, qui lui a quand même eu une trajectoire un peu plus droite sur la période que ce dont on parle là, et un pur produit de l'affairisme télévisuel, quoi. Voilà, il faut encore réussir à rendre compatible ça, et peut-être qu'il est capable d'y arriver en plus. Parce que c'est un processus qui est décrit là-dedans, et ce processus n'est pas arrêté, il continue. Et donc, par exemple, avec le développement durable, si on arrive vraiment à marier non pas l'écologie et l'industrie, mais les mouvements écologistes et les industriels, les Beauvais et les Nicolas Hulot, bon, alors là, il n'y aura plus de place du tout pour une politique alternative et même pour un cadre mental dans lequel voilà, on sait ce qu'est la gauche, on sait ce qu'est la droite, on sait ce qu'est la protection de la nature et on sait ce qu'est sa pollution par l'industrie, quoi. Parce que tout sera confondu, on n'aura même plus les outils pour le penser.
Opa ! En avant pour le grand bond en arrière. En avant, en avant, en avant. En avant pour le grand bond en arrière. En avant, en avant, en avant. En avant pour le grand bond en arrière. En avant, en avant, en avant. En avant pour le grand bond en arrière.
On poursuit notre émission autour du livre « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary » et nous retrouvons Thierry Di Cepolo qui précise pourquoi ce reniement est si critiquable.
On peut dire, voilà, est-ce que c'est si mal que ça de se renier? Est-ce qu'on va dire que ça serait au nom de l'autocritique que les renégats se renient? Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Donc pourquoi est-ce que ceux qu'on accuse de renégats ne seraient pas des gens qui auraient été capables de prendre la mesure des erreurs de jeunesse, des excès? Pourquoi? Bon, ça pourrait être une bonne critique, sauf que quand on regarde exactement les valeurs qu'ils ont abandonnées et les valeurs qu'ils ont gardées, parce qu'ils ont gardé beaucoup, on va remarquer déjà que la plus grande partie des valeurs dont on aurait bien aimé qu'elles soient abandonnées par ces anciens Mao, anciens radicaux d'extrême-gauche, en fait, ils les ont plutôt converties. Par exemple, le maoïsme, dans sa fortune critique un peu vulgaire, est jugé comme le culte de la personnalité par excellence. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus remarquable comme mode de reconversion que l'intellectuel médiatique pour le culte de la personnalité? C'est la version moderne du culte de la personnalité des années 60 et 70. Ensuite, on a pu critiquer chez les groupuscules d'extrême-gauche un certain goût pour la hiérarchie, pour l'autorité, pour... Bah, je suis désolé, mais la plupart des intellectuels médiatiques qu'on voit sans cesse en matière de soumission aux autorités, je veux dire, c'est les premiers, quoi, hein, que ce soit au patron ou que ce soit au gouvernement, les uns ou les autres vont être le valet au service de la parole des hiérarchies. Et hiérarchies dans lesquelles ils ont d'ailleurs, entre-temps, il ne faut pas l'oublier, acquis une position extrêmement enviable. Enfin, enviable pour ce genre de personnes, bien sûr. Donc... un autre point qu'on peut signaler, justement, sur la forme que prend le reniement de cette génération, c'est la critique qu'ils font du militarisme des groupuscules d'extrême-gauche. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont vraiment allés jusqu'au bout de cette critique, puisque maintenant, en matière de propagande et de promotion de militarisme, ils ont juste changé de niveau. Voilà, avant, c'était des petites guéguerres de gangs. Maintenant, ils sont directement les propagandistes de l'armée. Je veux dire, il suffit de voir ce que font Kouchner, qui maintenant même a un poste ministériel. Ils ont changé d'envergure, mais sur des thèmes en fait, qu'ils ne nous ont pas vraiment reniés. Quand on voit BHL derrière l'armée française en inventer les valeurs porteuses de démocratie, ça reste de la propagande militariste. On aurait préféré, à ce niveau-là, plutôt une critique plutôt qu'une continuation. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'ils ont renié, finalement? Ce qu'ils ont renié, c'est ce qu'il y avait dans l'idéologie des années 60 et 70 et qui était la promotion de valeurs égalitaires. Ça, oui, ça a fini. Alors, comme on dit assez souvent, c'est pas qu'ils ont renié la lutte des classes, c'est qu'ils ont juste changé de classe. C'est ça, le reniement en question.
Effectivement, c'est sous couvert de réalisme et de positivisme que les ex-gauchistes ont gravi les échelons des pouvoirs politiques et médiatiques en abandonnant une partie de leurs idées. L'un d'eux, Pascal Bruckner, était présent sur le plateau de Bernard Pivot en 1986 et pointait du doigt le caractère négatif de la critique développée par Guy Hockenheim. Écoutons la réponse de l'auteur du livre « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary ».
Il y a un argument qui a été donné tout à l'heure et sur lequel je voudrais revenir, hein, qui est très important pour moi. C'est l'argument sur le négatif et le positif. Une des choses qui vraiment m'a amené à écrire ce livre, c'est l'espèce de dictature à l'optimisation, au positif, qui est actuellement pratiqué systématiquement dans tous les médias, d'ailleurs, à mon avis, cette forme très particulière de mise en demeure. Soyez positif, soyez créatif. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ?
Soyez tapiste.
Soyez tapiste. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Ça veut dire simplement, vous n'avez plus le droit, et plus personne aujourd'hui n'a le droit, d'émettre des formes de pensée critique ou contestataire sans se faire traiter soit de jaloux, soit d'aigri, soit d'une manière ou d'une autre de négatif, d'esprit négatif. D'abord, c'est ignorer philosophiquement que le négatif est très important dans la production et dans la création, qu'il n'y a pas d'utopie possible sans critique, sans contestation. Et deuxièmement, ça fait régner une atmosphère que je trouve très...
Alors, non, Pascal Bruckner, renégat, dérisoire et renégat.
En tant que renégat nommé, si vous voulez, sur le propos central, le reniement... Je ne comprends pas comment tu peux dire que le reniement est une mauvaise chose. Mais heureusement qu'on a changé. Parce que les idées que tu défends, tu te prétends un utopiste, un contestataire, mais c'est des idées d'un conformisme effrayant. C'est des idées qui ont cours dans des pays comme l'Union soviétique, dans ces pays-là. Ouais. Et c'est très bien que ces gens aient changé. Quelle a été la conversion de tous les acteurs de 68 ? C'était une conversion à la complexité du monde, à la tolérance, à la démocratie. Et toi, tu cries à la trahison. C'est-à-dire que tu prends un changement... une conversion à la réalité comme une espèce de changement psychologique.
Alors, Guillaume Génier, mais on passe à un autre...
Simplement, le reniement n'est pas exactement le changement, c'est autre chose. Le reniement, c'est le fait de taper sur ses anciennes opinions. Et c'est
qu'on a tapé sur les anciennes opinions.
C'est le fait d'organiser sa vie sur cette image particulière du renégat, c'est-à-dire de l'homme qui a su s'incliner devant l'adulte, qui a su devenir, s'adapter, devenir un membre de la société responsable. Il y a des tas de formes de changement. Je pense que le changement est une immense qualité, comme tout le monde. Simplement, il y a des changements qui consistent à prolonger plus loin l'utopie. Quand on est un contestataire, par exemple, effectivement, à revenir sur ce qu'on a pensé, mais pas pour revenir en arrière, mais pour aller plus loin, ce qui est légèrement différent. Ce que j'appelle reniement, personnellement, et ce que j'appelle une forme de dictature de ce reniement, que d'une certaine manière, votre débordement, là, tout de suite, prouve, c'est le simple fait de ne pas admettre l'apologie, par exemple, du nucléaire, qui nous concerne tous pour l'instant, grâce à Tchernobyl, ou l'apologie pire de la bombe atomique, telle que la pratique Glucksmann, que je ne partage pas et dont je ne considère pas que c'est un changement positif dû à la complexité du monde. Parce que ça, c'est des histoires qu'on raconte peut-être à des enfants, mais qu'on ne raconte pas à des adultes.
Alors, Thierry Dissépolo.
Le plus visible de tous, ça reste Glucksmann. Je crois que Glucksmann est sa cible principale. C'est celui auquel il consacre le plus de pages. Mais c'est aussi celui dont il était visiblement le plus proche. Et ça, ça fait partie des choses dont je sais qu'on a considéré qu'il signait les limites du livre, comme si ce livre n'était finalement qu'une attaque personnelle de Raymond de Conte personnel. En fait, c'est tout l'art du pamphlet, un art qui visiblement a sacrément disparu, c'est-à-dire l'art de l'attaque ad hominem, de l'attaque personnelle, du coup bas, du coup haut aussi, du coup dans le dos s'il faut. Peu importe, de toute façon. La seule chose qui est claire, c'est que quand on voit aujourd'hui ce dont ces gens sont capables, il faut bien comprendre que tous les coups sont bons. Il faut arrêter de croire aujourd'hui que quand on a affaire à des figures comme BHL, qu'on a affaire à des figures comme Glucksmann, comme Jackland, comme Debré, comme Kouchner, il faut arrêter de prendre des gants. Et déjà en 86, ils ne prenaient pas de gants. Alors même qu'ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et puis c'est assez jouissif quand même. C'est assez jouissif. Il faut bien dire que ça fait vraiment beaucoup de bien de voir comment ces gens sont déculottés, sont mis à nu, sont raillés, et ça fait beaucoup de bien, quoi. C'est un exercice de catharsis. Ça fait du bien, enfin, quelqu'un qui installe un jeu de massacre et qui trouve les bonnes cibles.
À André Glucksmann, stalinien renversé. Cher et tortueux Glucks. En gros, comme dirait Julie, BHL et toi balisez le terrain. Tous deux renégats affirmés du gauchisme. BHL retrouve l'antisémitisme et le fascisme sous l'anarchisme qu'il pourfend et les philosophies du désir. Toi, tu déniches l'hitlérisme sous le masque pacifiste. La police des idées est bien faite. Toi et les tiens, au lieu du reniement par continuité de façade, proposez le reniement par rupture répétée. La continuité dans le reniement. Et c'est au nom de l'autocritique, de l'imprévisibilité de la pensée selon mai 68, que tu t'engages à droite. Plutôt mort que rouge, tu le reconnais ton slogan. Tu la reconnais ta croisade antipacifiste. Toi qui inventa en France la légende « Pacifisme égale KGB ». Oui, mieux vaut un général pacifiste qu'un philosophe guerrier, comme te l'a dit un jour l'amiral Sanguinetti. Mieux vaut, disait Kant, l'homme politique qui a une morale que le moraliste qui n'est qu'un justificateur de la politique. On peut avoir du respect pour l'homme qui s'expose au feu, pas pour le conseiller en massacre trop sûr de n'être pas payeur, encore moins pour le philosophe qui n'use de sa subtilité que pour légitimer la raison d'État la plus cruelle. Effarante évolution. Dans le discours de la guerre 1968, tu définissais la stratégie nucléaire et la dissuasion comme ce phénomène qui fait que, ouvrez les guillemets, du haut vers le bas, descend la paix par la terreur. De bas en haut monte l'empire de plus en plus illimité de la guerre limitée. Et ces mêmes dissuasions et guerres limitées, tu t'en fais aujourd'hui le grand avocat. De stratégie et révolution en France, 1968, à la bombe spirituelle, quel parcours! Le passage par le néo-stalinisme a converti l'ANAR en militariste. Long chemin de Damas. En 77, tu déclares encore à l'Express, ouvrez les guillemets, « Depuis plus de 10 ans, le travail des intellectuels gagne en précision ce qu'ils perdent de prétention. Ils agissent sur des points précis, par exemple, ils attirent l'attention sur les crimes coloniaux, sur la vie dans les prisons, sur le nucléaire, le Larzac. Pas mal pour le futur apôtre des Pershing et l'ennemi de l'anticolonialisme que tu devais devenir. » 1984, tu écris que les pacifistes sont des godiches illuminés. Et l'Express sous-titre ta photo. André Glucksmann, il dit tout haut que les rêves sont morts. Contrairement à d'autres, BHL ou Julie, ce n'est pas ton absence de ligne politique qui frappe, mais la succession de lignes multiples, tout asséné le poing sur la gueule, qui est ta spécialité philosophique.
Qui veut de moi?
qu'on appelle un intellectuel médiatique, c'est quelqu'un qu'on voit tout le temps, partout, en permanence. C'est quelqu'un qui a une sorte de capacité à être présent toute la journée sur les ondes, à la télévision, dans la presse. Bon, le travail d'Acrimed, par exemple, a consisté à faire des comptages de présence. Et c'est vraiment assez impressionnant de voir comment des figures comme BHL, des figures comme Finkielkraut sont capables d'être toutes les deux heures sur un canal donné. C'est-à-dire on se lève le matin, on les retrouve dans le journal du matin, et ils sont peut-être dans le journal du soir. Entre les deux, ils vont être à la radio. C'est ça, un intellectuel médiatique. C'est pas seulement quelqu'un qui a éventuellement une bonne place. Donc là, pourquoi est-ce que c'est mal? La première critique, pourquoi est-ce que c'est mal? C'est qu'en fait, s'ils sont tout le temps là, eux, bah, ça veut dire qu'il y en a qui ont pas beaucoup la parole. C'est une sorte d'indice de la présence inversement proportionnelle de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, il n'a pas accès. Il n'a pas accès aux médias, il n'a pas accès à la parole publique. La parole publique, elle est privatisée par quelques-uns. Alors déjà, ça, c'est un vrai problème. C'est une sorte de modèle antidémocratique. Ça, c'est la première critique qu'on peut faire aux intellectuels médiatiques.
À sa transcendance BHL. Cher Bernard, cher Henri, cher Lévy. Trois personnes en un seul Dieu. Ce mystère du De Trinitate, tu en es, fier monothéiste à trois dimensions, hauteur de vue, largeur d'esprit, profondeur du cœur, l'attrait cathodique illustration. Pourquoi relever, te reprocher tes reniements, toi qui es, mieux qu'une girouette, une véritable rose des vents à toi tout seul. Hauteur de l'infatuation, largeur de la surface médiatique, profondeur de la pose pour photographe, constance dans l'inconsistance, dogmatismes alternés. Tes prises de position se succèdent et se contredisent. Dans l'idéologie française, tu pourfendais Mauroy comme pétainiste. Dans Question de principe, tome 5 de tes œuvres reliées, tu te prévaux d'appartenir à, ouvrez les guillemets, la vraie gauche. Ton agitation interlope ne cesse de transiter entre les deux formes du reniement, de gauche et de droite. Le chantage à l'antisémitisme, au fascisme, ne t'a servi qu'à restaurer, comme seul rempart contre les mauvais instincts des foules, la théologie la plus répressive. Inventeur du retour au sacré par utilitarisme, aimable Torquemada d'une inquisition de théâtre, belle âme de toc et de truc, ton périple patine sur le lac gelé des illusions perdues en arabesques imprévisibles. On pense, en te voyant évoluer, à cet autre danseur mondain, Philippe Solers, dont l'orbite croise la tienne par moments. Vos trajectoires s'opposent ou se conjuguent, balais capricieux d'opportunités à principe. Il me revient qu'en 1971, tu me demandais d'écrire contre le Solers Mao de l'époque une démolition salée, selon tes propres termes, et qu'en 1981, tu le déclarais le plus grand de nos écrivains contemporains, dont la lucidité théorique et l'éthique politique m'ont plus d'une fois obligé. Le Monde. Au fond, même opposé, vos lois de révolution, au sens planétaire, pas politique, sont les mêmes. Comme Solers aussi, tu es irréel, insaisissable, presque incorporel, tant l'image a pris le dessus sur la pensée et la matière. Quelle que soit la solennité de vos engagements, il vous manque l'existence. Ton triple personnage flotte au gré des récits médiatiques, sans arriver jamais à la consistance. Vous semblez toujours, lui et toi, des garçons qui n'existent pas. Vos vies sont rêvées, en miroir. Tout chez toi est imaginaire. Le supposé ex-gauchiste, première hypostase, ce personnage de révolutionnaire d'opérette que tu t'es inventé rétrospectivement de toutes pièces, comme faire valoir de ton reniement. Même toi, tu sembles douter qu'il ait jamais existé. Ce fameux émoi de mai auquel la légende veut que j'ai participé depuis ma chambre entre un transistor et une carte d'état-major. Écris-tu en préface à la réédition des Indes Rouges. Et encore, ouvrez les guillemets. Il y a beaucoup de faux, certes, dans la légende, mais il y a un peu de vrai aussi. Et la vérité, c'est que je n'ai pas été, en effet, un acteur majeur du mouvement. Très curieux, ce vague, cette incertitude sur soi-même. Dites-moi ce que j'ai vécu, demandes-tu, car tu ne sembles pas le savoir toi-même. Ta seconde hypostase est aussi incertaine, Falotte. Le néo-philosophe concocté sous Giscard pour rallier la droite s'est retrouvé socialo sous Mitterrand. La troisième, l'artiste insondable au regard hanté, le radigué trop vieux, le romancier truqueur, a la même indécision, la même artificialité. Comme si tu avais, au lieu d'une biographie, un fantôme de biographie, fait de morceaux empruntés, de clichés volés à trois vies différentes et célèbres du passé. Il y en a même, les gens sont méchants, qui doutent que tu sois vraiment du côté de ta mère, le juif que tu prétends incarner.
Texte, écrit par Guy Hockenheim.
L'homme aux initiales. Tu es ex-gauchiste, sans avoir été gauchiste. Ton engagement à gauche, ton respect admiratif pour Mitterrand, sont un bon sujet de blague pour initier. Quand tu fus mon éditeur chez Grasset, avons nourri du vieux libidineux auquel tu te vantais de fournir de jeunes filles. Et en tant que romancier, Bernard
Texte.
Franck remarque dans Le Monde
par
que tu es un de ces immenses écrivains presque sans œuvre. Cette triple fiction, biographique, politique, esthétique, qui constitue ton personnage, est ta seule création d'imagination. L'autoproclamation est l'arme des faibles. Te pinces-tu pour être sûr d'être ? On dirait que tu éprouves une difficulté à exister. Tu es l'agorie de l'impuissance à rien éprouver, à rien créer, à rien croire ni affirmer, propre à notre génération. Ton nombrilisme, c'est notre nihilisme, et non un retour de croyance. Si, un jour, ce que je ne te souhaite pas, le public qui te donne le sentiment d'exister te quitter, tu lui redirais sans doute cette incroyable formule par laquelle tu mis fin à ton expérience de journal quotidien au bout de 15 jours. Ouvrez les guillemets. Les lecteurs ont unilatéralement rompu le contrat de confiance qui nous liait. Tu considères l'admiration publique à ton égard comme un devoir du public et tu ressentirais son manque comme une trahison. Trahison suprême qui ferait chanceler ton être, l'effacerait de l'écran. À n'exister que pour les autres, tu dépends intimement d'eux et tu voudrais les contraindre à te rester fidèle. Tu fais penser à ce médiaman, héros du film, un homme dans la foule, qui, discrédité par la révélation en direct de ses mensonges, finit sa vie face à une machine à applaudir, ersatz de public. Drogué aux médias, à la popularité, tu ne tiens qu'à l'applaudimètre. Ton inexistence morale, chevalier du vide, révèle l'inexistence, sous l'armure, des croisés de notre génération blanche. Et cette inexistence est inscrite en tes initiales. B. H. L. Tu n'as même pas de nom à toi, rien qu'un sigle comme RATP ou SNCF. Avec toute ta célébrité, tu es l'homme aux initiales, abrégé d'une génération sans nom propre.
Dirigée contre les ex-gauchistes, la plume acerbe de Guy Hockenheim a eu très peu d'écho dans les médias. Thierry Nicepolo.
On a compté en 5 ans un seul article paru dans la presse et pas la presse nationale. C'était un petit journal qui s'appelle L'Utopitre. C'est le seul article paru pour la réédition de l'ouvrage. On a été longtemps coutumier de la faible réception médiatique de nos ouvrages, mais il fait partie des records celui-là. C'est un de ceux qui a été le moins discuté, alors même qu'il faut savoir que Guy Hockenheim est quelqu'un qui est quand même une œuvre. C'est pas un inconnu qui sort en bouquin. C'est-à-dire que ce soit en 86, quand le bouquin sort, ou même en 2003, il y a une vingtaine de bouquins qui sont vendus régulièrement. C'est quelqu'un qui existe. Ça veut dire que l'absence de relais, sans jouer les, on va dire, sans exagérer la paranoïa, il est bien évident qu'on peut ne pas penser à des efforts, au moins de silence, quoi. Et habituellement, quand un bouquin sort par quelqu'un de connu, le monde médiatique en parle parce qu'il se nourrit de ça. Là, rien, zéro, rien. Vente maigre, je crois qu'on a dû atteindre les 2500 exemplaires en 5 ans, ce qui n'est pas grand-chose pour un ouvrage aussi connu, aussi cité quand même, parce que malgré tout, c'est un ouvrage cité. Dès qu'un auteur, un journaliste, travaille sur ses figures et qu'il a une position critique, à un moment ou à un autre, vient une citation d'Hockenheim.
Comment expliquer qu'il y ait eu si peu d'écho à l'époque, et aujourd'hui encore, il dérange encore ce livre ?
La plupart de ses cibles sont au pouvoir. entre les cabinets ministériels, les maisons d'édition, la presse et les télévisions, à peu près toutes ces cibles sont au pouvoir. Il faudrait revenir à la liste des fonctions qu'a un BHL, quand même, je veux dire, dans l'édition, dans la presse, à la télévision, je veux dire, c'est colossal. Ce sont des gens qui ont des capacités extrêmement importantes. Je veux dire, ça ne me semble pas être une hypothèse complètement farfelue d'imaginer que les gens qui sont la cible de ce bouquin et qui sont aujourd'hui au pouvoir font tout ce qu'il faut pour qu'on ne parle pas de ce bouquin.
Et peut-être faudrait-il ajouter le fait qu'une nouvelle idéologie est apparue depuis 68, idéologie consensuelle et dominante, que ces ex-68ards, qui sont les cibles de Guy Hockenheim, défendent bec et ongles et présentent même comme étant la vérité. C'est en tout cas ce que l'on pourrait déduire, sans extrapoler, de cet échange entre Pascal Bruckner, Laurent Dispo, Bernard Tapie et Guy Hockenheim qui a eu lieu dans l'émission Apostrophe en 1986.
C'est des livres positifs.
Je voudrais simplement faire remarquer ceci. C'est qu'il y a un consensus, de toute évidence, entre vous trois, qui est intéressant.
Pas, mais oui,
il y a
une sorte... Victime, alors vraiment...
Arrêtez.
Pas du tout. Ça fait 10 ans que tu fais
pas
ça.
Du tout.
Il y a un consensus...
C'est maso, c'est
qui
tout.
Portant...
Tu voudrais qu'on persécute.
On n'a plus le temps d'être maso. Dans 14 ans, c'est l'an 2000, on n'a plus le temps d'être
maso. Si vous ne laissez pas parler, il sera persécuté.
Oui, mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça que je l'aide.
Je sais pas.
Bon, il y a un consensus, je ne dis pas du tout que ça soit ignoble d'avoir un consensus, c'est un fait. Il y a un consensus dans la société actuelle. Par exemple, il y a un consensus droite-gauche, ça s'appelle la cohabitation. Il y a un consensus ex-gauchiste, droite-gauche, par exemple, sur Tapie et son utilité. On peut simplement faire remarquer que la personne qui met en doute le fait que le dirigeant d'entreprise soit particulièrement la personne productive de l'entreprise, comme je le fais pour l'instant, heurte un consensus aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la restauration.
C'est la vérité, c'est la vérité.
Je vais finir ma phrase. Bon.
Pourquoi est-ce que la vérité, tu l'appelles consensus?
Bon. Alors, la vérité est toujours un consensus, effectivement. Mmh. Il vient de lâcher le morceau. Il vient de dire, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'il n'existe plus qu'une culture d'entreprise comme modèle possible du secours à l'humanité que le chef d'entreprise, que Laurent Dispo, lui, sait que c'est la vérité.
Certains 68ards reconvertis ne sont que très brièvement évoqués par Guy Hockenheim. C'est le cas notamment du cinéaste Romain Goupil et du philosophe Alain Finkielkraut. Rappelez-vous par exemple que tous deux proclamaient haut et fort leur soutien à une intervention de l'armée américaine en Irak. Et cela ne les a bien sûr pas empêchés de ressasser leurs souvenirs de 68 dans les médias. Et à cette occasion justement, Alain Finkielkraut s'est inscrit dans la continuité du reniement. Pour conclure, je vous propose donc un extrait d'une très récente émission d'Alain Finkielkraut qui occupait l'Odéon avec France Culture pour le 40e anniversaire de mai 68.
Il ratisse vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé.
Mai 68, mai 2008, toi qui nous écoutes derrière ton transistor, toi qui nous écoutes dans ta bagnole, toi qui nous écoutes sur ton tracteur, aujourd'hui ça se passe au théâtre de l'Odéon à Paris. Plus d'infos franceculture.com.
Autour de la question, la flamme de mai 68 brille-t-elle toujours? J'ai invité aujourd'hui Jade Lingard et Serge Audier. J'appartiens à ce qu'il est convenu d'appeler la génération 68. J'ai toujours considéré ce fait comme un fait, et non comme une chance ou un privilège, même quand d'autres l'enviaient, nous auraient mis en place d'avoir pu nous reconnaître. Et j'aurais pu, aujourd'hui, retomber dans la mélancolie et feuilleter avec d'autres vétérans, d'autres seigneurs, les photos éclatantes de notre adolescence révoltée.
Si vous voulez, et que de ce point de vue-là, il y a un paradoxe pointé par...
Non, il n'y a pas de communiqué. C'est vrai, 68 recommence. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est incroyable. Non, j'ai absolument pas envie de laisser un micro. Je vous ai pas invité que je sache. De toute façon, vous arrivez en groupe, je peux rien faire. Et j'imagine que, bien entendu, France Culture va vous donner le micro. Je le fais moi-même, puisque c'est inévitable, mais je le fais à regret.
Non.
C'est incroyable. France Culture résiste, je résiste avec France Culture. Vous le lirez à un autre moment, mais là, je vous demande de me laisser continuer mon émission. Soyez polis. Je m'en fous, moi, j'en ai pour peu de temps.
C'est qui dit de s'occuper, l'Odéon. Voilà. Nous ne sommes pas particulièrement en colère contre vous.
Merci.
Respectez-nous aussi. Non, respectez aussi ce qui se passe dehors.
Personne. Vous ne respectez personne.
Nous ne sommes pas particulièrement en colère contre vous. Vous entendre tirer une des plus belles révoltes que le XXe siècle ait connue par ici ne nous étonne plus. Si nous prenons aujourd'hui ce temps d'antenne, c'est pour dire à ceux qui écoutent qu'à l'heure où les anciens combattants rabâchent leurs faits d'armes, à l'heure où les experts évacuent le sens des mots à coups de verbiage, à cette heure donc, d'autres s'emparent du présent et tentent de l'habiter par leur lutte et leur révolte. À cette heure, par exemple, des migrants enfermés se battent dans les centres de rétention. Grève de la faim, refus de se faire compter, de rentrer dans les chambres, cellules brûlées. Et les CRS qui régulièrement prennent le relais des matons pour étouffer à coups de matraque les révoltes naissantes. Nous rentrons dans la lutte aux côtés des enfermés, notamment en relayant à l'extérieur ce qui se crie à l'intérieur des centres. Car nous avons décidé de traduire en acte notre dégoût de la chasse aux étrangers. Et nous le faisons en désertant les formes mortes de la politique de parti, de représentation, de hiérarchie. Dans ce nous de mouvement, dans ce nous de révolte, se trouvent trois personnes qui se rendent le 19 janvier à la manifestation contre le centre de rétention de Vincennes et se font contrôler. Ils ont sur eux, comme d'autres, des clous tordus et du fumigène artisanal. Des clous pour faire barrage aux véhicules, un fumigène pour saluer les détenus.
Un équipement relativement banal, donc.
Mais là, ah non, mais c'est pas vrai.
On ne peut que voir des fumigènes.
Non, écoutez, ça va, on a compris maintenant. 10 minutes, c'est ça ?
Terroriste, criant en cœur la justice et les journaux. Un équipement.
Non, reprenez,
et voilà
reprenez.
Deux amis, et voilà deux amis, Ivan et Bruno, jetés en prison en attente d'un procès, placés sous juridiction antiterroriste. Aujourd'hui, cela fait presque 4 mois qu'ils y sont. Pourquoi ? Parce qu'un mouvement commençait à prendre trop d'ampleur ? Parce que les formes de lutte qu'ils ont choisies ne correspondent pas au cadre de contestation prévu et encadré par les instances dirigeantes ? Vous l'aurez compris, nous n'aimons pas les pavés muséifiés. Nous allons laisser continuer les gens de médias sans nous, tâcher de noyer les puissances de la lutte dans des phrases sans effet. Mais maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, quelques-uns crient fort et qu'on les jette en tôle. Sachez aussi que nous ne nous laisserons pas faire.
Solidarité,
oh non,
avec Ivan et Bruno et tous les enfermés.
C'est les mères de croque-morts.
Voilà.
Pauvre titre. Pauvre titre.
On reprend maintenant l'émission de la Ligue des Croix de Réplique, où les combats d'aujourd'hui sont invités visiblement. À la fin, quant à vous, vous continuez.
Alors maintenant, je vais reprendre l'émission, si c'est possible. Et je trouve, si vous voulez, que cette attitude est très révélatrice. Je ne la lirai pas nécessairement en 68, mais ce qui est très frappant dans ce comportement, c'est ce que les Américains appellent la self-righteousness, c'est-à-dire la bonne conscience, la sûreté de son bon droit. Ces personnes nous considèrent comme des survivants, comme des morts, morts au croque-mort. Donc nous ne devrions pas être là. Pourquoi ? Parce qu'ils mènent une lutte pour le bien. Quel est le bien ? Le bien aujourd'hui, ce n'est plus la révolution, c'est l'antiracisme. S'il y a une politique de maîtrise des fumigatoires, c'est une politique raciste. Cette politique raciste rappelle les heures sombres de notre histoire, comme on le répète. Donc, ils viennent ici pour interrompre des gens qui, à leurs yeux, sont des vichysois, sinon pire. D'où cet extraordinaire fanatisme. Serge Audier, vous dressez des listes. J'y figure, Pierre Manon y figure, Marcel Gauchet y figure. Vous dressez des listes de réactionnaires, comme si d'ailleurs dans notre pensée ultérieure, 68 avait tant compté. Ça n'a absolument pas compté dans ce que j'ai essayé de réfléchir. Mais vous voyez le danger. Le danger, il est de trahir effectivement le grand héritage de 68 en substituant à l'élévation comme impuissance la position de l'histoire. Ça ne vous conduit pas à vous comporter comme ces crétins, mais ça vous conduit malgré tout à faire des listes noires. C'est à moi, je n'ai jamais, si vous voulez, dit mort à mes adversaires. Le progressisme y invite, puisqu'encore une fois, le progressisme divise le monde entre ceux qui sont vivants de plein droit et ceux qui sont les survivants d'une époque révolue. Donc, ce sont des scandales ambulants. Nous n'avons pas lieu d'être. Il faut donner un sens à cette brutalité, quand même.
Le croque-mort n'est pas le mort. Enfin, pardonnez-moi.
Et mort, ça veut dire quoi?
Le croque-mort.
Nous sommes des croque-morts parce que nous voulons, soi-disant, enterrer 68. Ce n'est certainement pas l'intention de France Culture. Autrement dit, dans ce pays, quand on dit « mort aux Arabes, mort aux Juifs », c'est absolument abominable, mais quand on dit « mort à ceci ou à cela, qui sont les antiprogressistes », c'est très bien, c'est une intervention brutale qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Alors, si c'est une intervention simplement brutale, laissez les racistes s'exprimer comme ils veulent, parce que c'est exactement du même ordre. C'est la même méchanceté, c'est la même violence, et ça aboutit dans l'histoire aux mêmes ignominies.
C'était donc la tirade d'Alain Finkielkraut, énoncée à l'encontre de militants venus importuner son plateau radio, qui faisait pourtant mine de rejouer les heures précédant la nuit des barricades de mai 68. Ciao, 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 la mattina mi sono svegliata ed ho trovato l'invasor. Voilà, le livre de Guy Hockenheim est tellement d'actualité que personne n'en parle, et c'était donc une émission autour de cet ouvrage, intitulé « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary », publié chez Agone. Vous avez pu entendre Thierry Di Cepolo et Benoît Eugène, ainsi que des extraits de l'émission « Apostrophe » de Bernard Pivot, où Guy Hockenheim était invité en 1986. Se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior, e tutti quelli